Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invitée, c'est la comédienne Rebecca Marder, à l'affiche d'un film très ambitieux, De grandes espérances. C'est le titre du film, c'est avec Benjamin Laverne, ça sort demain. Bonjour, rebonjour Héloïse Goy.
Bonjour à tous.
Frédéric Le Ternier, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Et je salue également Jean-Luc Lemoine, bonjour.
Bonjour à tous.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous semblez péter la forme. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça donne envie de savoir. Alors on vous écoute, c'est parti mon kiki.
Écoutez, j'espère que vous voulez pas refaire de la télé, Philippe, hein, parce que avec des lancements comme ça, vous finirez jamais sur Arte. C'est parti mon kiki. Ok, d'accord. En plus c'est faux, j'ai pas une grosse forme. Ce matin, j'ai raconté ma vie à la barrière du parking d'Europe 1. Et ce week-end, j'ai pleuré en regardant une rediffusion de Stéphane Plaza. Je crois que je couvre un petit burn-out. À ne pas confondre avec le mal qui touche une grande partie des députés d'ailleurs. Depuis quelques temps, ça c'est le burn-out. Ça n'a rien à voir. Et dimanche, j'ai lu un article dans Le Parisien qui disait que les youtubeurs étaient touchés par le même mal.
Oui.
Ouais, vous avez vu aussi ?
Bien sûr.
Même McFly et Carlito ont arrêté les vidéos. Alors, pour essayer de comprendre, je suis allé voir les vidéos du youtubeur le plus suivi au monde. Il est américain, il a 24 ans, il s'appelle Jimmy Donaldson, mais il s'appelait Mr Beast, Monsieur Bête. Oui, on est d'accord, ça sonne mieux en anglais. 137 millions d'abonnés, presque deux fois la France. Et la vidéo qu'il a postée ce week-end, ça commence comme ça.
Derrière moi, il y a un assassin. Et s'il me poignarde avec ce couteau en caoutchouc avant la fin de la journée, il gagne 100 000 $.
La vidéo s'appelle « J'ai payé un assassin pour tenter de me tuer
wow. ».
Ça va être difficile de faire plus putaclic. Mais ça va, on n'est pas des gogos, hein. Franchement, avec un titre aussi racoleur, qu'est-ce que tu fais ?
Tu cliques.
Tu regardes, on est d'accord. T'as envie de savoir s'il va se faire tuer avec un couteau en caoutchouc. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance, la vidéo démarre sur le toit d'un train en marche. Ne me demandez pas pourquoi. Mais l'assassin est ligoté sur une chaise. Je crois que Jimmy lui-même ne sait pas trop où il va. Hein, ça sent un peu quand il essaie de vendre son concept.
C'est la vidéo la plus épique que vous avez jamais vue sur cette chaîne. On a loué un vrai tank de l'armée et toute une fête foraine. Vous allez assister à l'explosion d'une banque et bien plus encore. Tout ça pour échapper à ce véritable assassin. Il faut que vous voyez cette vidéo.
Voilà. Ah ouais. Rien que dans cette vidéo de 12 minutes, t'as le budget de 4 saisons de Demain nous appartient. Je comprends que les youtubeurs français partent en burn-out, hein, car c'est une machine vorace YouTube. À chaque fois, faut faire plus. Il y a 3 ans, MrBeast, c'était ça.
Dans cette vidéo, on va manger une pizza à 70 000 $. C'est un régal.
Elle est incroyable.
Yo, des steaks à 2 000 $.
C'est magnifique. Il est excellent.
Des tacos à 5 000 $.
J'ai l'impression que l'océan nage dans ma bouche.
Moi je vous préviens, à ce prix-là, si la nourriture vaut ce prix-là, il est hors de question que j'aille aux toilettes après. Ou sinon je fais directement ça dans un coffre à la banque. D'ailleurs dans ces cas-là on appelle ça plus faire ses besoins, on appelle ça faire un virement. Donc vous avez compris, le garçon c'est le roi de la surenchère.
J'ai dépensé 2,5 millions $ pour acheter ce jet privé et j'ai fait venir 11 youtubeurs pour qu'ils posent leur main dessus. Celui qui gardera sa main le plus longtemps gagnera le jet privé.
Non mais,
Après,
mais pourquoi c'est dingo.
Va motiver les jeunes pour qu'ils regardent Question pour un champion, hein, avec à gagner l'encyclopédie des tortues terrestres. Pardon mais tu peux pas lutter, hein. Même si ça n'a aucun sens. Parce que même si tu gagnes un jet, t'en fais quoi après ? C'est pas facile à garer, surtout à Paris avec Anne Hidalgo. Mais MrBeast interroge quand même les candidats.
Si tu gagnes, tu feras quoi de ce jet ?
Je vais simplement l'offrir à ma maman, je vois pas à qui d'autre.
La fête des mères, c'est quand même autre chose aux États-Unis. Quand je pense chez nous à toutes ces petites feignasses qui font des colis en pâte à sel. Hein, bon, après, il faut juste que ta mère ait un brevet de pilotage, mais c'est un détail. Ce qui est remarquable dans ces vidéos, c'est qu'on est souvent dans un merveilleux mélange de déballage indécent de pognon et une dégoulinade de bons sentiments.
Quand j'avais 5 ans, je suis tombé très malade. J'ai eu une leucémie et j'aimerais trouver quelqu'un qui n'a pas eu un bon départ de vie et lui offrir une chance.
Waouh!
Ouais, ça
donc
peut changer
chercher
une vie.
Quelqu'un qui a eu une leucémie et ouais. Va lui offrir le jet.
C'est pas sûr qu'il trouve la personne. Donc il gardera peut-être le jet pour lui. Alors évidemment, jeune entrepreneur, tu te demandes comment il finance tout ça, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un peu de placement de produit. Je dis que je suis pas sûr car honnêtement, dans la vidéo où il se fait courser par un tueur, c'est fait très discrètement.
Monsieur l'assassin, voilà un indice. Je suis au 20e étage. Et maintenant qu'il sait où je suis, je vais vous parler de mon sponsor avant de me faire poignarder. TurboTax est le meilleur moyen d'obtenir un maximum de réduction d'impôts.
C'est même pas si c'est vraiment une bonne pub de dire que grâce à ta marque, tu peux engager des tueurs. Mais comme YouTube a des raisons que la raison ignore, alors il y a plein de vidéos, pour tous les goûts, pour les gourmands déjà.
Ça, c'est la plus grande part de pizza du monde entier. Cette pizza fait 1,80 m de long, 113,3 kg. Joey, t'as littéralement gagné 10 kilos avec une pizza.
C'était un challenge difficile, mais ça m'a fait du bien de savoir que j'allais finir.
Bon appétit tout le monde.
Il l'a mangé.
Ah, je vous la conseille celle-là. La pizza de 1m80, quand le gars attaque la croûte, t'as les dents du fond qui baignent pour lui. Et si vous hésitez encore, Jimmy vous propose de choisir entre ces deux vidéos.
Les deux prochaines vidéos de MrBeast. Vous allez choisir entre voir un aveugle qui recouvre la vue pour la première fois ou celle du plus grand hamburger du monde.
C'est difficile. Entre un aveugle qui voit pour la première fois et le plus grand hamburger du monde, mon cœur balance. Je vous laisse choisir tout seul.
Merci beaucoup Jean-Luc. À demain, on vous retrouve. Non, pas à demain, on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Wow. Et tout ça est vrai, évidemment.
Ah, hein. Et tout est vrai.
Et l'histoire des youtubeurs qui font un burn-out, c'est vrai aussi.
Exactement.
C'était pas une invention de Jean-Luc. Héloïse Goy, votre indispensable du jour.
Un succès assez inattendu de Netflix. C'est une série italienne sur une jeune avocate, la toute première d'Italie. Ça s'appelle Lydia fait sa loi.
J'ai la même question pour Frédéric.
Alors, je ne vais pas vous parler de l'encyclopédie des tortues terrestres, j'ai mieux. J'ai un livre de Francis Picabia, Lettres et poèmes à Gabriel, c'est inédit et c'est sorti aux éditions Segers.
Petite question qui m'est posée par Jérémy Hébert, notre réal, qui a beaucoup aimé le son, le doublage des vidéos qui réussit, c'est doublé par, par les Américains eux-mêmes.
C'est eux qui font ça, on a l'impression que c'est un peu une espèce de téléachat sous acide, mais c'est vraiment les Américains qui font ça et ils doublent ça dans toutes les langues.
C'est très réussi. Merci Jean-Luc Lemoine.
Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Philippe Vandel.
Bonjour Rebecca Marder.
Bonjour.
Actrice présentée partout comme l'étoile montante du cinéma français, seulement 27 ans. Vous êtes déjà une ex-pensionnaire de la comédie française, vous êtes restée 7 ans. On va citer Simone, Le Voyage du siècle, film d'Olivier Dahan, une jeune fille qui va bien de Sandrine qui Berlin, La Grande Magie de Noémie Lvovsky et Mon Crime de François Ozon qui est toujours en salle. Mais votre actu, c'est ce film de grandes espérances, film signé Sylvain Descloux. Ça sort demain, c'est avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. C'est déjà votre 14e film. Comment on pourrait le catégoriser? C'est un thriller politique, il y a quand même beaucoup de questions d'amour, il y a du suspense, il y a de la réflexion, il y a une mise en perspective.
Bien,
voilà.
Ouais. Il y a des trahisons politiques.
Ouais. Ouais, exactement.
Le point de départ, alors le pitch?
Alors le pitch, moi je trouve que ça tient un peu de la tragédie grecque finalement. C'est une jeune femme qui était promise à un avenir radieux, qui allait échapper à sa condition et qui est rattrapée par le fatum, quoi. Mmh. Elle est rattrapée par le destin. Et donc voilà, c'est Madeleine, une jeune étudiante à Sciences Po, boursière et majeure de sa promo, donc brillante, qui s'apprête à rentrer à l'ENA, qui a un amoureux en or. Mmh. Et alors qu'elle passe des vacances avec lui, le drame arrive. Et
sur une route de Corse,
voilà, elle commet l'irréparable. Le couple va exploser face à ce secret. Le secret agit chimiquement différemment chez l'un et chez l'autre. Et donc, le couple explose et elle rentre en politique. Mais lui, un an plus tard, rentre dans le parti adverse. Et là, tous les coups sont permis. Et c'est une histoire aussi de vengeance. Et...
Le mot est bien choisi parce que le coup, c'est aussi un coup de fusil. On va entendre un extrait. Il y a un accident. Il y a les gendarmes qui viennent interroger Madeleine et Antoine dans cette très très belle villa en Corse, les interrogent séparément et puis les deux amoureux se retrouvent.
Alors, ça a été ?
C'est dans le coma, Antoine. Qu'est-ce qu'on fait ?
Quoi ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait s'il sort du coma ?
Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et puis on sort pas du coma comme ça, il y a forcément des séquelles. Si le mec est entre la vie et la mort, il se réveille pas comme ça sans séquelles.
Quoi, comme séquelles ?
Ouais, mais j'en sais rien, moi. Amnésie, perte de mémoire, je sais pas. Je suis pas médecin.
Mais non, justement, t'es pas médecin. S'il y en a pas. S'il y a pas de séquelles.
Mais arrête maintenant, stop ! De toute façon, le type va mourir, il me l'a dit, le flic.
Le film pose une question. Je vais reprendre la phrase du réalisateur. Peut-on changer le monde quand on a les mains sales ? J'aimerais bien avoir votre réponse.
Alors, ça dépend comment on s'est sali les mains et à quel point elles sont sales. Non, justement, Sylvain Descloux, le réalisateur, a cette phrase que je trouve pas mal et qui résonnait, en tout cas, par rapport à mon rôle. C'est est-ce que si on apprenait que Greta Thunberg, la militante écologiste, avait du sang sur les mains ou avait, en tout cas, avait commis quelque chose de grave, est-ce que sa cause en serait pour autant moins noble ? Et je trouve que, dans le cas de Madeleine, qui, en fait, tue
moins
malgré
noble,
elle...
Peut-être pas. Mais peut-être qu'elle serait démolie par les réseaux sociaux.
Peut-être, c'est vrai. Oui,
et
oui,
comme
oui, non,
là,
tout à fait.
Vous présentez une question de politique, l'image compte autant que les actes. C'est là où ce film est très très intéressant.
Oui, oui,
si ça avait été un autre métier que la politique, la question de l'image ne se pose pas pour un type qui est chauffeur routier.
Mais quand vous voulez vous présenter devant le suffrage universel, cette question se pose.
Je pense que tout de même, j'ai l'impression que Madeleine, le personnage que j'incarne, c'est quand même une jeune femme qui ne veut pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Elle veut accéder au pouvoir pour faire le bien, pour changer le monde. Elle a des idéaux qui sont... j'ai l'impression que c'est plus important pour elle d'aller jusqu'au bout. Elle vire, c'est quasi obsessionnel, elle vire presque, c'est presque fou, hein, mais en tout cas, je pense que son combat est plus important que tout. Donc en fait, elle peut... Ouais.
On va entendre son combat, on est avec Rebecca Marder, ce film s'appelle De Grandes Espérances, vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, et c'est pas fini, à tout de suite.
Europe 1.
De Grandes Espérances, c'est le film qui sort demain au cinéma. On en parle évidemment sur Europe 1 avec l'actrice principale Rebecca Marder et votre invité Philippe Vandel.
C'est un film avec une dimension sociale, Rebecca Marder, puisque après cet incident, vous êtes attachée parlementaire, vous travaillez avec une députée qui est Emmanuelle Berco. En quoi consiste votre travail et quelle est votre vision du monde à ce moment-là ? Suite du personnage, évidemment.
Oui. Alors à ce moment-là, elle ne change pas. Madeleine reste sur sa lignée dans des valeurs de gauche, d'économie sociale et solidaire, sur une échelle des salaires de 1 à 20. Elle veut vraiment faire rentrer un texte de loi. Et finalement, il y a une espèce de transfert un peu. La figure d'Emmanuelle Berco peut être à la fois, elle l'admire énormément, elle a écrit sa thèse sur les idées défendues par le personnage d'Emmanuelle. Et puis, je pense qu'elle y voit aussi une figure un peu maternelle, puisque Madeleine n'a pas de mère dans le film. Donc, il y a c'est pas une amitié qui se lie, parce que c'est vraiment sa patronne, mais en même temps, il y a un vrai rapport de confiance entre les deux femmes,
On va entendre un extrait entre ces deux femmes. Ça se passe dans une usine. On peut contextualiser avant qu'on entende l'extrait, l'enjeu de cette scène.
Ah oui, tout à fait. Je pense qu'elle est compréhensible, non ? Vous voulez que je contextualise ?
Non, alors on va l'annoncer comme ça, parce qu'elle est chef d'entreprise, mais on y va comme ça, on va tout comprendre. Allez, c'est parti.
C'est le groupe qui va décider. Voilà. Maintenant, je suis désolé, il faut que j'y aille.
Excusez-moi, Sybil Ramet, ça vous dit quelque chose ? Ramet, EY ?
Non, désolé.
Vous étiez bien DRH chez Noirot, dans le Pas-de-Calais, en 2013 ?
Oui, tout à fait. Pourquoi ?
Madame Ramet travaillait au service du nettoyage, dans les équipes du soir, aux ateliers. Elle a été hospitalisée pour un cancer du poumon, diagnostiqué maladie professionnelle. Elle est morte le 24 avril 2014. J'ai sa photo, si vous voulez. Le directeur des ateliers a proposé aux collègues une demi-journée pour aller à l'enterrement. Et vous, vous avez refusé, vous vous rappelez ? 3 collègues y sont allés quand même et vous les avez licenciés pour absence injustifiée. Je suis sûre qu'il y a un ou deux journalistes que ça exciterait pas mal d'écrire un petit papier là-dessus.
Rigole pas, Madeleine.
Ah non, Madeleine, elle rigole pas.
Et finalement, elle obtient gain de cause et je n'en dis pas plus.
Ouais, taisez-vous, Philippe.
Il n'y a pas de maman, c'est un choix ou c'est arrivé comme ça ? Il y a des papas dans ce film, il n'y a pas de maman.
Oui, c'est vrai. Alors, Sylvain Desclous, est-ce qu'il a un problème avec sa mère ? Non. Vraiment, je crois que c'est...
Qu'est-ce qu'il vous a dit et comment il a présenté les personnages ? Parce qu'il y a les papas sont très forts. Oui. Votre père à vous, joué par Marc Barbet.
Il est incroyable.
Le père d'Antoine, joué par Pascal Elso, qui est incroyable également.
Incroyable aussi, oui. Oui. Non, mais il ne se l'explique pas vraiment, le réalisateur. Je crois qu'il a... Justement, il n'avait pas envie d'expliquer cette absence, mais il voulait... Par les dialogues, on comprend que Madeleine a peut-être eu des responsabilités vis-à-vis de son père, dans un rapport de duo, pas de couple, mais presque. Enfin, elle a vécu seule avec son père et parce que la mère était hospitalisée. Et donc, je crois que il voulait créer des beaux rapports père-fille et père-fils.
Alors, justement, rapport compliqué, mais absolument savoureux du point de vue cinématographique. C'est un soir d'été, il y a un grand dîner, il y a vous, il y a votre amoureux, Antoine, vous êtes Madeleine, il y a son papa, il y a l'ex-ministre qui est devenu député incarné par Emmanuelle Berco. Et là, deux visions du monde s'opposent, on écoute.
Mais cette complexité dont tu parles, elle peut aussi dissuader de toute envie de réforme. Je l'ai vu quand j'étais au gouvernement, je le vois tous les jours à l'Assemblée. Et donc ce réel, il ne faut pas avoir peur non plus de lui rentrer dedans.
Je suis complètement d'accord.
Dit-il devant un risotto aux truffes, un clos jour 2012.
Grosse remarque ringarde ça, papa. Puis tu noteras que je suis à l'eau.
Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton réel ? C'est le dîner, la terrasse, cette maison peut-être, ton appart à Lyon. Non mais dis-moi, ça m'intéresse. Moi.
Mais c'est tout le reste qui ne va pas, papa. Faut regarder autour de soi un peu.
Ah, elle est contente.
Non, mais ce qu'Antoine veut dire, et je suis un peu d'accord avec lui...
Je sais ce qu'Antoine veut dire. Mais moi, ce que je veux vous dire, mes enfants, du haut de ma ringardise, c'est ça. Regardez le monde tel qu'il est, pas uniquement tel que vous voudriez qu'il soit. Et vous verrez, tout ne va pas si mal. surtout vous concernant.
Amen.
Deux visions du monde s'opposent et faire bouger les choses ou transformer le réel.
Oui, et je trouve ça assez incroyable parce que finalement, le personnage d'Antoine, incarné par le formidable Benjamin Laverne, il est aussi, comment dire, il essaye d'échapper lui aussi à sa condition finalement de fils d'eux, lui qui a grandi déjà, enfin voilà, dans une famille, dans le sérail, puisque c'est sa tante Emmanuelle Bercot qui est donc députée. Je trouve ça assez... les gens, quand ils sortent des premières projections, là, les premiers retours du public, le trouvent tellement lâche et traître. Et, ouais. Et moi, en fait, je trouve ça très intéressant de voir que finalement, c'est le personnage masculin qui a des valeurs au début, mais qui finalement finit par les sacrifier par amour, parce que c'est lui qui vit un dépit amoureux et qui devient lâche par amour. Ouais. Il est un peu plus veule, il est un peu plus fragile. Et on peut se dire que Madeleine, elle est quand même... peut-être de par là où elle vient et là où elle est née, elle a un instinct de survie qui fait qu'elle n'abandonnera pas. Alors que lui... qui avait les mêmes valeurs qu'elle au début du film, finit par être effectivement le personnage détestable.
Je souris à Rebecca Marder, parce qu'en entrant dans le studio, on m'a dit « il ne faut pas spoiler », puis là vous êtes en train de raconter de plus en plus de choses. Et je trouve ça absolument savoureux. On continue de parler avec vous, Rebecca, Culture Média continue.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité Philippe Rebecca Marder à l'affiche dès demain du film De Grandes Espérances.
On va parler d'art avec vous, Frédéric Le Ternier. Oui. Et une fois n'est pas coutume, vous souhaitiez nous parler d'un livre.
Et oui, j'ai fait mon petit caprice aujourd'hui, Philippe, mais rassurez-vous, un livre en rapport avec l'art évidemment, et plus particulièrement avec un peintre, Francis Picabia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'artiste est né en 1879, il est décédé en 1953, et il était connu pour ses peintures et ses dessins, bien évidemment, mais également pour son travail d'écriture. Il a été proche du mouvement Dada, et puis ensuite des surréalistes, et encore, ce ne sont que certaines facettes de sa palette qui est très large. Et ce sont donc les éditions Segers qui proposent la publication de lettres, et de poèmes, tous inédits, de Francis Picabia et adressés à une femme, pas n'importe qui, à celle qui a été son épouse, la mère de certains de ses enfants, mais plus globalement, sa muse, son double, Gabriel Buffet. Alors, ils se sont séparés au bout d'une dizaine d'années, mais il est pourtant resté fidèle, intellectuellement en tout cas, jusqu'à sa mort, à cette femme dont il disait, je trouve que c'est joli, qu'elle avait un cerveau érotique.
Ah, c'est joli.
C'est hein. Joli. Hein. Mmh. D'ailleurs, les
on dit ça de moi aussi.
Alors d'ailleurs, les écrits inédits du livre se situent tous entre le début de la guerre et le début des années 50, une période où ils ne formaient déjà plus un couple.
Et même ce livre a une histoire. Qui est à l'origine de cette publication?
Alors ce sont, accrochez-vous, les arrière-petites-filles de la fameuse Gabrielle Buffet, qui ne sont pas non plus des inconnues du grand public. Anne et Claire Bérest, toutes deux autrices. Anne, elle a notamment sorti, je ne sais pas si ça vous parle, La Carte Postale, un grand succès de librairie.
Elle était venue dans cette émission.
Adoré, ah, moi.
Parfait.
Bouleversée. Oui.
Et elle est charmante, je peux vous le dire. C'est justement elle qui nous raconte comment et pourquoi elles ont toutes les deux rendu ce livre possible.
Vous savez, ce sont des lettres que mes cousines ont retrouvées, qui étaient comme des trésors cachés qui n'attendaient qu'à être découverts. Et je les trouve très inspirants. Ce sont des lettres qu'on a envie de lire à haute voix ou qu'on a envie d'offrir à quelqu'un qu'on aime.
Les deux sœurs ont donc préfacé cet ouvrage de Picabia, chacune à tour de rôle, c'est ce que j'ai apprécié. Claire, elle évoque cette relation si particulière entre son aïeule, qui était, il faut que je vous la situe un petit peu quand même, qui était une musicienne supérieurement intelligente, tournée vers la modernité, donc cette relation entre elle et le maître, en nous disant que pour eux, alors je cite Claire Bérest, « il leur a été à jamais impensable d'interrompre ce dialogue commencer à leur première rencontre. Car leur pacte, bien au-delà d'un contrat de mariage, est celui de frères et sœurs jumeaux, nés à eux-mêmes et ensemble dans la contradiction. Oh. » C'est joli aussi. Hein. Elle écrit bien, Claire Bérest. Anne, de son côté, nous indique que Picabia n'était pas seulement un peintre. On l'écoute.
Francis Picabia est évidemment connu en tant que peintre, un peintre qui a révolutionné l'histoire de l'art. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait le goût de l'écriture et qui écrivait des poèmes et des aphorismes géniaux que vous allez découvrir en lisant ce petit recueil.
Moi, je le connais aussi comme le roi de la punchline, Picabia. De quoi parle-t-il dans ses lettres, dans ses poèmes?
Eh bien, de tout, en fait. Cela pourrait être, comment vous expliquer, un journal intime, un journal poétique. On y trouve ses pensées, ses états d'âme, les convictions et les doutes de l'artiste, des propos sur les autres peintres également, où il est d'ailleurs pas tendre avec un certain Pablo Picasso.
Oui, au fond, il lui parle de tout ce qui lui passe par la tête. Donc, cela va de considérations très pragmatiques sur les difficultés de la vie pendant la guerre. Par exemple, il doit acheter un rasoir pour un certain Robert, et alors il trouve que c'est affreusement cher. Et puis, deux lignes plus tard, il va faire un portrait de Picasso en disant qu'il ne le supporte pas, que c'est un artiste surfait. Donc, voilà, c'est très intéressant à lire pour nous, lecteurs du 21e siècle.
Et en effet, page 100, 1826, hein, Picasso toujours, on lit « Gabriel, la peinture était une glace que les cubistes ont cassée. Je t'assure que l'amusant de la chose, c'est que l'histoire est un mythe. La peinture de Picasso se classe dans le désert, véritable décadence. Ces tableaux sont des relations de faits bas, ils me dégoûtent. Leur vie est morne et je me fiche pas mal de ce qui peut leur arriver. » À bon entendeur.
C'est peut-être un peu trompé sur Picasso. Qu'est-ce qu'il recherchait dans son travail Picabia ? Est-ce qu'il le dit dans le livre ?
Oui, enfin, il donne des pistes. Ce qu'il explique à Gabriel, c'est qu'il veut repousser les limites. Il faut bien comprendre que Picabia, c'était un artiste total et que ses émotions le poussaient à vouloir s'exprimer et que ce soit par le biais, donc on l'a compris, de la peinture, de l'écriture, pour traduire ses émotions en fait. Et quand on lui demandait ce qu'était un artiste, il avait cette réponse que je trouve formidable. Un artiste, c'est un homme qui mange du feu, qui est capable d'avaler du feu, beaucoup plus capable d'avaler du feu qu'un savant.
Il y a des punchlines alors ? Est-ce qu'il y a de l'humour ?
Oui, il y a des traits d'esprit en tout cas, Philippe, notamment dans les aphorismes, on en parlait tout à l'heure, qui ponctuent le livre. En voici un, rien que pour vous. L'amour et la jaunisse sont des maladies peu graves à l'âge de 7 ans.
C'est adorable.
Ou encore, Paris se vide, je ne suis pas assez fort pour le remplir.
Et il évoque dans le livre ceux qui l'ont inspiré.
Bien sûr, et juste après Gabriel, on l'a compris, c'est Nietzsche qui vient en premier, puis toutes les femmes, il le dit noir sur blanc, les femmes sont les dépositaires de ma liberté. Ce qui est très beau, c'est qu'il a lui aussi inspiré d'autres artistes, et bien plus tard, tels que le chanteur Serge Gainsbourg, en tête, grand admirateur, qui lui a d'ailleurs emprunté ces mots, extraits du livre de Jésus-Christ Rastaquer.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré.
Tu sais, les femmes, il ne faut pas chercher à les retenir, c'est comme les cheveux.
Rebecca, recommencer.
Tu sais, les femmes, il ne faut pas chercher à les retenir, c'est comme les cheveux. On peut un peu retarder leur départ, mais ils finissent toujours par s'en aller.
C'est Rebecca Marder qui tient ce livre. Donnez-moi le titre, donnez-moi Lettres.
Lettres et poèmes à Gabriel.
Et c'est aux éditions Segers, oui. grande maison d'édition de poésie. Merci Gabriel Le Tournier, c'est la dernière ligne droite de Culture Média maintenant.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel, vous recevez Rebecca Marder qui est à l'affiche du film De Grandes Espérances demain au cinéma.
C'est avec Benjamin Laverne et Emmanuel Bercot. Et vous avez cette réplique, Rebecca Marder, dans le film. Si on veut détourner un avion, il faut monter dedans. C'est évidemment une image, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est bien de savoir s'adapter et puis, une fois adapté, éclater le moule.
Et faire péter le système de l'intérieur.
Ouais.
6 films tournés et publiés, sortis par vous en 2022-2023. Comment vous vivez ça ?
C'est incroyable, je vis ça comme une joie. Parce que c'est vrai, c'est des films que j'ai tournés les uns après les autres, tout en étant à la Comédie Française et en jouant au théâtre. Donc c'est galvanisant de travailler autant. Et puis là, c'est vrai que ça va faire 2 ans et demi qu'on me fait confiance sur des rôles et des trajectoires assez inouïes. Donc c'est une chance pour une actrice.
Et je ne sais pas si c'est inconscient ou non, mais vous levez les yeux au ciel. Quel effet ça fait de voir sa tête sur les colonnes Maurice, sur les affiches ? Parce qu'il n'y a pas ça à la Comédie Française, ce ne sont que des noms sur les affiches.
Oui, oui, non, j'ai du mal à réaliser. Je n'ai pas l'impression que ce soit moi. Je ne suis pas en dissociation de personnalité, mais bon, je me dis, oh là là, c'est incroyable.
Les gens vous reconnaissent dans la rue ?
Un petit peu, ça commence.
Et c'est plaisant ?
Évidemment, parce qu'on est heureux de... Très même, très plaisant. On est heureux que le travail soit reconnu.
Vous avez 27 ans seulement. Vous avez démarré dans le métier à l'âge de 10 ans. C'était comment vos débuts ? Vous aviez quel rôle ?
Je faisais de la chorale au conservatoire du 13e et j'ai été repérée par un directeur de casting qui m'a fait passer une audition pour jouer dans un film sur les enfants insupportables. C'était pour jouer une petite peste qui était la fille de Sandrine Benner et Pascal Légitimus dans Demander la permission aux enfants. C'était une comédie pour les enfants.
Ouais.
Et après ça, j'ai eu un agent et c'est encore mon agent aujourd'hui.
Après ça, vous avez raconté, je trouvais ça dans un journal, j'étais enfant quand j'étais dans mon premier film et après ça, je ne voulais plus rentrer chez moi.
Ouais, oui, c'est ça.
Pourquoi ?
Ben, j'étais tellement... Le tournage, c'est une bulle...
Galvanisée par le plateau ?
Oui, et puis j'étais tellement heureuse, j'avais l'impression de servir à quelque chose et puis... C'était joyeux, on y avait une bande d'enfants, je ne voulais plus rentrer chez moi, à tel point que mon père appelait la production en menaçant d'appeler les services sociaux, parce que les enfants n'ont pas le droit de travailler plus d'un certain nombre d'heures. Voilà. Et moi, je ne voulais plus rentrer, donc je restais même pour les scènes qui étaient pas dans lesquelles je ne jouais pas.
Je ne sais pas si vous connaissez le point commun que vous avez avec ce gars-là.
Michael ?
Ouais.
Et pas la chirurgie esthétique ?
Du tout.
Vous on est né en avril ?
Non, je sais.
Alors, dites-moi, on chante ?
Je vais vous dire, quand Michael Jackson sort l'album Thriller, il a 24 ans seulement, Il a déjà, comme vous, 17 ans de métier. Oh. Il a commencé à 7 ans avec les Jackson 5. Et en fait, quand on vous voit, on se dit cette fille est jeune, mais elle a déjà 17 ans de métier.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est quand même énorme, 17 ans de métier.
Mais j'ai pas le même père que Michael Jackson.
Je le souhaite.
Il est plus sympa le vôtre.
Mais il est musicien.
Et il est musicien, c'est
il
vrai.
Il vous a poussé ou pas? Parce qu'il faut raconter, vous avez un atavisme hors norme.
Oui, oui,
votre papa
vrai.
Est américain, il est musicien-compositeur.
Oui, tout à fait.
Et votre maman est française.
Et voilà, elle a été journaliste. Et puis,
dans quel domaine?
Elle a écrit sur la musique, elle a écrit sur le théâtre.
Voilà, c'est pour ça, je trouve ça tellement intéressant d'être la fille d'une critique de théâtre.
Oui, c'est vrai.
Et elle vous a poussé, elle?
Elle, plutôt le contraire. Elle a essayé de m'empêcher et de me décourager. En fait, elle était au chômage quand moi j'ai voulu commencer à faire ce métier. Donc, elle ne m'a pas du tout traînée au théâtre ou dans les pots de première. C'était vraiment plutôt l'anti-stage mom, au contraire. Mais mon père m'a poussé.
Anecdote qui fait ma joie.
Et soutenue.
Racontez ce que votre maman vous a dit quand vous avez démissionné de la Comédie Française.
Mais en fait, elle était plutôt. Maintenant, elle est rassurée, elle a confiance en moi. Bon. Mais elle m'a quand même conseillé. Mais même quand j'étais à la Comédie Française, elle m'a conseillé de reprendre la fac. Elle m'a dit que quand même, il fallait se remplir la cervelle et que c'était pas sur les plateaux que j'allais me remplir la tête.
Vous allez faire une pièce autour du tango. Je voulais dire d'un mot vos prochains projets.
Oui.
C'est ça, hein?
Oui, exactement.
Ça sera quand?
C'est au mois de mai, du 10 mai au 27 mai, au Théâtre du Rond-Point. C'est mis en scène par Martial Di Fonzobo. Et c'est une pièce écrite par Santiago Amigorena avec le Gotan Project.
Ah oui, ils sont
Philippe
super.
Philippe Cohen-Solal, oui. Donc il y aura 14 musiciens et danseurs. Et puis je joue là-dedans. Oui.
Et vous dansez?
Et je vais danser apparemment. Oui. Mais j'apprends à danser le tango. C'est magnifique.
Ah, parce que vous n'êtes pas au courant encore de ce que vous allez faire.
Exactement. Les répétitions n'ont pas commencé.
J'adore. Tout est dans le apparemment. C'était un plaisir total de vous avoir reçu, Rebecca Marder.
Plaisir
je rappelle,
pour moi. Merci.
De grandes espérances. Ça sort demain.
J'aime film, ce film.
Signé Sylvain Descloux. Nous aussi, on aime ce
nous
film.
Aussi, ouais.
C'est
merci.
Avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Nous, on va se retrouver demain à 9h pour Culture Média avec une série doc consacrée à l'affaire Air Cocaïne. Il y avait des centaines de kilos de cocaïne dans un avion, c'était en 2013. L'un des cerveaux de cette affaire, c'était Franck Collin. Vous savez quoi? Il sera avec nous dans le studio. Et aussi le réalisateur Stéphane Ribojade. Et puis l'humoriste Manu Payet. Après Emmanuel, c'est son nouveau one-man show. Emmanuel 2, normal. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Le programme du jour. Bonjour d'abord.
Bonjour. On est un peu essoufflé parce que moi, je ne sais pas, en ponctualité, aujourd'hui, je nous mets un 5 sur 10. Hein, Julia,
on
n'est pas bonne.
Par
là,
contre, en beauté, je vous mets un 10 sur 10 à vous tous. Hein. Vous êtes bénis.
Merci beaucoup.
On va parler de notation, vous avez compris.
Et en plus,
hein.
On était à l'heure.
On vous
c'est le sujet du jour. Il y en a un autre ou pas?
Pourquoi on note tout? Pourquoi on évalue tout? Est-ce qu'on ne devient pas fou un peu justement dans cette ère de la notation, de l'évaluation? On va voir s'il est encore possible de revenir en arrière. Enfin, voilà. Comment se raisonner, être un peu plus serein peut-être. Hein.
Évidemment. Voilà. Et avec cette question, et quelle note on met aux gens?
Trop envie d'écouter cette émission. Julia, moi, je vous mets 10 sur 10.
Allez, pareil.
Mais j'ai aucun recul.
C'est l'école des fans. Quoi, c'est vraiment...
Tout le monde a gagné. Merci beaucoup, Rebecca Marder. À demain. Salut Anissa.
Merci.
Salut.